Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Frédéric Vial, coordinateur de la commission MCAGCS à Attac.
Alors, on vous avait reçu en octobre dernier pour ce que vous deviez nous parler de la conférence ministérielle de l'OMC, donc qui s'est tenue depuis et à laquelle vous avez assisté en décembre, donc à Hong Kong. Alors, petit suivi d'informations, ça ne nous fera pas de mal, surtout que ça ne fera pas la même chose que chez nos petits camarades des autres radios. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Des bonnes choses ont été décidées?
Non, globalement non. C'est-à-dire que finalement, un accord a été trouvé entre les États. Et l'accord qui est trouvé n'est pas un bon accord, en gros, hein, puisque c'est un accord qui donne quelques petites choses pour les pays en voie de développement, ce qu'on a appelé dans le jargon le paquet de développement. Et contre ces petites choses qui ont été concédées aux pays en voie de développement, en réalité, beaucoup de choses ont été obtenues par les pays développés, notamment dans les services, mais aussi dans ce qu'on appelle l'accès au marché non agricole.
C'est-à-dire
l'accès au marché non agricole, oui. C'est-à-dire absolument tout sauf l'agriculture, les services, c'est-à-dire l'industrie en fait, l'industrie, la manufacture, la pêche et l'exploitation du bois.
D'accord. Et qu'est-ce qui a été obtenu justement
Il y a une espèce de marché. C'est-à-dire que d'un côté, l'Union européenne a lâché une date. Elle a lâché une date. Elle a dit qu'à partir de 2013. Les subventions à l'exportation agricole étaient terminées. Elles terminaient de subventionner à l'exportation. Et en contrepartie, les autres pays, c'est-à-dire notamment d'abord le Brésil, l'Inde et puis ensuite tous les autres derrière, ont consenti sur les services à accélérer le processus de libéralisation et sur l'accès au marché non agricole à baisser considérablement, à discuter en tous les cas de la baisse des tarifs douaniers dans le domaine des marchés non agricoles. Voilà.
Mais on pourrait dire c'est très bien ça, finalement la fin des subventions à l'exportation d'un côté, des tarifs douaniers moins forts de l'autre côté, c'est bien?
Non, pas exactement, parce que en fait, bon, faut bien voir, hein, la fin de des subventions agricoles, ça représente à peu près un sixième des subventions réelles qui sont versées aux agriculteurs, je veux dire aux agriculteurs européens, parce qu'il s'agit simplement de la fin des subventions à l'exportation, c'est tout. Donc la concession est de petite taille, et puis de toute façon elle est programmée dans le budget européen qui, comme vous le savez, est assez misérable et qui va à un moment donné abandonner un certain nombre de politiques agricoles communes. Ou un certain nombre des éléments de la politique agricole commune. Et puis, la contrepartie, c'est-à-dire la baisse des tarifs douaniers sur les marchés non agricoles, c'est pas une bonne nouvelle, notamment pas pour un certain nombre de pays qui ont des industries un peu fragiles ou un peu en difficulté. On a eu un exemple très récemment de ce que ça fait de baisser les tarifs douaniers lorsqu'on a suspendu l'application des quotas dans le textile. Nous, on a vu surtout, nous, en Union européenne, on a vu surtout débouler les chemises, les liquettes, les chaussettes chinoises. Donc, on en a parlé à ce moment-là. Mais il faut bien voir que ce genre de décision a surtout eu des conséquences économiques et sociales dévastatrices pour un certain nombre de pays comme le Bangladesh, dont on peut pas dire qu'ils font partie des pays les plus riches du monde, mais qui avaient axé leur développement sur, par exemple, l'industrie textile, et qui se sont trouvés là vraiment en très grande difficulté. C'est ce genre de choses qui va se produire pour tout un tas de pays qui sont des pays fragiles. Le Bangladesh, l'Indonésie, d'autres pays comme cela, qui vont se trouver en concurrence directe avec les produits des pays du Nord et les produits des pays émergents comme la Chine, le Brésil et l'Inde. Donc, du point de vue du développement, c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle, d'autant que la formule de réduction des tarifs, je m'excuse d'être un tout petit peu technique, mais je vais l'être 10 secondes seulement, la formule de réduction des tarifs, en fait, est tout à fait drastique pour les pays du Sud, c'est-à-dire que plus on a des tarifs élevés, plus ils vont être amenés à être coupés. Et donc, ça va aboutir pour eux à des conséquences en termes sociaux très importantes. Ils vont avoir des industries qui vont être littéralement pilonnées.
Il y a un petit truc que je comprends pas. À vous écouter, je me dis, mais tout cela a été négocié. Donc les pays qui ouvrent, qui acceptent ces choses-là sont maso.
En fait, tout est dans la présentation. C'est-à-dire que quand on dit toutes ces choses-là sont négociées, c'est exact en théorie. La pratique à l'OMC est celle de méthode de gangster. C'est-à-dire que à l'OMC, il y a effectivement ceux des pays qui pèsent dans le commerce international et qui ont un poids politique important, l'Union européenne et les États-Unis, qui font jeu égal et qui couvrent une grosse partie du commerce international. Et puis après, il y a les pays qui peuvent avoir une certaine latitude, une certaine autonomie de décision, qui sont des pays émergents, qui ont des points faibles et des points forts, typiquement l'Inde et le Brésil. Il est à noter que pendant toutes les négociations, par exemple, la Chine n'a strictement rien dit. La Chine attend de voir. Donc, ce qui a joué aujourd'hui, enfin, à Hong Kong, c'est l'Inde et le Brésil. Et tous les autres derrière, tous les autres pays sont des pays plus pauvres, des pays endettés, des pays qui ont une autonomie relativement limitée et un poids limité dans le commerce international également. Il n'y a pas du tout d'homogénéité entre les pays, et certainement pas en tous les cas entre les pays du Sud, qui, en l'occurrence, se sont totalement divisés et ont tous lâché à partir du moment où ils ont obtenu un tout petit truc. Les pays les plus pauvres ont obtenu quelques vagues promesses concernant le développement. On leur a promis quelques petites choses, on leur a lâché quelques petites choses. Dès lors, ils ont accepté. L'Inde et le Brésil ont accepté aussi l'accord qui a été fait, en se disant que pour eux, ça pouvait être intéressant précisément pour ouvrir les marchés de leurs voisins plus pauvres. Vous voyez, ça s'est négocié de cette manière-là. Et à partir du moment où l'Inde et le Brésil, et ensuite derrière l'Afrique du Sud, puis la Thaïlande et quelques autres comme ça, faisant leurs petits calculs, se sont dit « je ne vais pas plus loin dans l'opposition aux États-Unis et à l'Union européenne », eh bien tous les autres pays se sont couchés. Il y a une espèce de jeu de dominos comme ça. Et il faut savoir aussi que dans le fonctionnement même de l'OMC, il y a une complicité extraordinairement constante entre le secrétariat de l'OMC, c'est-à-dire celui qui dirige les négociations, qui les conduit, et l'Union européenne et les États-Unis. Tous les textes depuis le départ, c'est-à-dire depuis le début des négociations, ont été le fait des desiderata, le reflet des desiderata des États-Unis et de l'Union européenne. Et singulièrement, dans les deux domaines qui les intéressaient, les services et l'accès au marché non agricole. Alors à partir de là, effectivement, on a un accord, mais qui est un accord de lequel il est difficile de dire que les pays consentent réellement. Ils y consentent par défaut. Alors je ne sais pas si j'ai encore une demi-seconde pour dire qu'il y a quand même deux pays qui ont dit qu'ils émettaient des réserves, le Venezuela et Cuba. Accessoirement, j'ai appris personnellement que Cuba faisait partie de l'OMC, ça m'a beaucoup surpris, mais enfin bref, en tous les cas, ils ont émis des réserves. Ce sont les deux seuls, sinon tous les autres se sont couchés.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Frédéric Vial, donc qui s'occupe des affaires d'OMC notamment, attaque. Il y a un petit truc, encore une fois, ça fait deux fois que je comprends pas, je dois avoir la comprenette un peu lente aujourd'hui. J'ai pas bien compris pourquoi les pays du Sud, finalement, disent oui à des choses qui, finalement, risquent de laminer leur industrie ou leur agriculture. Pourquoi ils se sont pas levés en masse en disant, très bien, on se lève de la table, on refuse de négocier. Enfin, pourquoi ils n'ont pas fait une fronde?
C'est ce qui s'était passé à Cancun, ce ne s'est pas passé là à Hong Kong, mais il faut voir qu'il y a une procédure qui a été remise en place à ce moment-là à Hong Kong, qui est celle qu'on appelle des chambres vertes. Alors c'est quelque chose qui est assez peu connu et c'est dommage, parce que ça consiste, vous savez, à Hong Kong, il y a une journée qui dure 24 heures comme partout ailleurs. Et d'abord, pendant la journée, les États reçoivent des journalistes, ils voient les ONG. Et alors là, ils disent que jamais ils ne signeront, jamais ils n'accepteront un accord aussi lamentable. Puis alors après, vers 18h, commencent les choses sérieuses. Et les choses sérieuses, en chambre verte, ça se passe de la manière suivante. Le secrétariat de l'OMC convoque un certain nombre d'États, mais pas tous, sur certains sujets clés. Quand, par exemple, il s'agit de débloquer la question de l'agriculture, on va convoquer l'Union européenne, les États-Unis, c'est normal, et puis on va convoquer le Brésil et l'Inde, parce qu'il s'agit de désolidariser le Brésil et l'Inde des autres pays, parce que c'était leur solidarité qui avait permis de créer Cancun. En tous les cas, le refus de Cancun. Et puis, on convoque aussi quelques petits États, par exemple, quelques petits États cotonniers. Et puis, c'est tout. Et ensuite, on s'adresse à eux et on leur dit, voilà, maintenant, vous répétez ce que vous avez dit dans la journée. On s'adresse à eux dans un contexte dans lequel le Brésil et l'Inde, derrière lesquels ils ont l'habitude de se réfugier, de se servir de paravent, commencent à dire qu'ils vont lâcher sur un certain nombre de choses et que à partir du moment où l'Union européenne donne une date de fin de subvention, eh bien ils sont d'accord pour accepter sur les services non agricoles et puis sur les services tout court. Et là, à ce moment-là, les pays les plus pauvres commencent à se sentir complètement lâchés et on les convoque comme ça les uns derrière les autres, mais pas tous en même temps. De sorte que chacun se rende bien compte que ses intérêts ne sont pas pris en compte, ne sont pas représentés, ne sont pas défendus. Et à ce moment-là, les États reprennent leurs vieilles habitudes qui est de faire leurs petits calculs particuliers et de se dire « c'est pas un bon accord, mais c'est mieux que rien ». C'est exactement la réponse que, il se trouve que j'ai eu l'occasion de parler à la représentante de l'Indonésie, qui m'a dit « ce n'est pas un bon accord, mais c'est mieux que rien ». On a limité la casse. En réalité, non, ils n'ont pas du tout limité la casse. Ils ont obtenu quelques petites choses. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Si jamais ça marche pas en chambre verte, ça va plus loin, ça s'appelle le confessionnal. C'est-à-dire que là, le secrétariat de l'OMC convoque les États les uns derrière les autres et leur dit « cher ami, qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors là, vous avez deux types d'États. Vous avez l'État qui a les moyens de politique, financier, etc., de dire, voilà, il y a ça et ça qui me plaît pas. Et puis, vous avez les autres États, notamment les États qui sont endettés, et il y en a beaucoup, et qui commencent là à mesurer un peu leurs propos et les conséquences de leurs propos. Et puis, si on continue dans les méthodes de gangsters, il y en a aussi qui sont très simples et qui sont d'une brutalité absolument inouïe. Il y a le fait, par exemple, que l'avant-dernier jour, 6 États, dont des États importants, dont l'Afrique du Sud, avaient dit qu'ils ne voulaient pas de l'annexe C sur les services, qu'ils ne voulaient pas d'un accord sur les services. Ils ont transmis leur texte en disant qu'ils ne voulaient pas de cet accord au secrétariat de l'OMC. Et que croyez-vous qu'a fait le secrétariat de l'OMC ? Il l'a gardé sous le coude. C'est-à-dire qu'officiellement, les autres États n'ont pas été informés que 6 d'entre eux, dont certains les plus importants, ne voulaient pas de cette annexe. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a comme ça une dizaine. Donc vous voyez que ce genre de procédure amène finalement à des accords qui sont des accords par défaut.
Il y a un petit truc qui m'étonne, hein. Encore une fois, on va me dire. Quand je lisais les journaux, on me disait que c'était drôlement bien l'OMC parce que ça permettait des accords multilatéraux, que le niveau de négociation était multilatéral et que c'était bien mieux que des accords bilatéraux. Et ce que vous me dites me semble légèrement contradiction avec ça.
Oui, parce qu'en réalité, la façade est multilatérale, la réalité n'est pas multilatérale. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, sur la question des services. Aujourd'hui, sur la question des services, l'accord de Hong Kong a dit les États sont d'accord pour négocier l'ouverture, une plus grande ouverture des services. Il a fixé un certain nombre de dates limites où les offres et les demandes de libéralisation de services, les services c'est ce qui touche toutes les activités sauf l'agriculture et l'activité manufacturière, tout le reste ce sont des services. Eh bien, l'accord de Hong Kong a dit il faut libéraliser davantage et aller plus loin dans les négociations. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une douzaine de petits groupes de pays qui se sont mis en place, qu'on appelle ça des pays amis de la libéralisation, en fait, et qui ont décidé de faire des demandes groupées dans l'audiovisuel, le transport aérien, les services informatiques, construction, éducation, énergie, environnement, finance, etc. Il y en a 12 comme ça. Et par petits groupes, de cibler certains États en leur demandant d'ouvrir des négociations dans ce domaine-là particulier, dans ces domaines particuliers. Et ces États, c'est l'accord de Hong Kong qui le dit, doivent considérer de négocier. Ils doivent accepter de négocier. Donc on voit bien qu'en réalité, c'est pas des accords multilatéraux, c'est du plurilatéral restreint, pas totalement du bilatéral quand même, mais du plurilatéral restreint. Et après, une fois que l'ouverture est faite, eh bien, les règles s'appliqueront pour l'ensemble des prestataires de services, par exemple.
Des Yessou et des Hommes, en compagnie donc de Frédéric Vial, qui est coordinateur du groupe de travail au MCAGCS à Attac. Alors, il y a quelques instants, vous me disiez que finalement, les négociations à l'OMC, c'était du plurilatéralisme restreint. Mmh. Moi, ce que j'ai compris, c'est que désormais, il y a des pays qui se regroupent pour négocier dans un certain domaine, et ils font des demandes à un certain nombre de pays en face. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi seulement un certain nombre de pays en face, d'autant plus que vous avez ajouté juste à la fin qu'une fois qu'on avait décidé de libéraliser dans un domaine, ça s'appliquait pour tout le monde. Enfin, on libéralisait de façon générale. Et pas tout bien compris.
En fait, cette procédure-là est utilisée dans un domaine particulier qui est celui des services, qui est un domaine qui est très important pour les pays développés, notamment pour l'Union européenne et les États-Unis. Ça représente 70 ou 75% de leur PIB. Ils ont donc une véritable demande sur ces questions-là. Et sous leur impulsion, en effet, a été mise en place un certain nombre de petits groupes de pays qui se déclarent prêts à qui dressent des listes de demandes, des listes de secteurs dans lesquels il faudrait libéraliser les prestations de services. Et donc, comme j'avais commencé de vous le dire, il y a l'audiovisuel, le transport aérien, enfin bref, il y en a comme ça une bonne douzaine. Et ces pays ensuite ciblent les pays qui les intéressent, c'est-à-dire ceux qui ont un marché, ceux qui sont solvables. Pourquoi cette procédure? Parce que cette procédure permet d'écarter la lourdeur, l'embêtement, l'enquiquinement, pour pas utiliser un autre mot, du multilatéralisme. Quand on fait des négociations multilatérales, on est à 150 en train de négocier, et donc forcément, il y a des pays qui sont d'un développement qui n'est pas équivalent, et qui fondamentalement n'intéressent pas les grandes entreprises transnationales. Les grandes entreprises transnationales de l'eau, du téléphone, de l'éducation, n'ont strictement ou pas grand-chose à faire des pays les plus pauvres. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, en revanche, ce sont les marchés du Brésil, de l'Inde, de la Chine. Ça, oui, ça les intéresse beaucoup. Donc, plutôt que de s'enquiquiner à faire du multilatéral qui engloberait tout le monde, sur un certain nombre de points qui sont des points importants, les points où il y a beaucoup d'argent à se faire, c'est-à-dire sur les services en l'occurrence, eh bien on fait des petits groupes et on fait ensuite des demandes ciblées. Et comme par ailleurs, il se trouve que dans l'accord général du commerce des services, qui est l'accord qui règle la question des services à l'OMC, pardon, eh bien, il y a une clause qui est la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire la clause qui permet qu'une fois que c'est ouvert pour un pays, c'est ouvert pour tous les pays. Ça voudra dire que dès lors qu'un pays a consenti à ouvrir pour un secteur, pour un pays, il a ouvert pour tous les autres. Donc, on arrive par là à avoir un multilatéralisme de façade, à faire comme s'il y avait une négociation globale avec tout le monde. En réalité, pas du tout. C'est une négociation entre quelques pays qui sont des pays qui veulent bien libéraliser. J'ajoute à cela que, bien entendu, et ce en quoi ça nous concerne directement, l'Union européenne est extrêmement active dans ces choses-là. Il se trouve que ces pays-là, ont déposé des listes de demandes le 28 février, vous voyez, c'est très 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 récent, le 28 février dernier, et dans ces listes de demandes, l'Union européenne a fait des demandes extrêmement importantes, a eu des exigences extrêmement importantes dans tout un tas de secteurs, c'est-à-dire le transport aérien, l'informatique, les constructions, l'énergie, l'environnement sauf la distribution d'eau potable, les finances, services juridiques aux entreprises, logistique, services maritimes aussi, les télécommunications. Elle a dit, l'Union européenne, qu'elle ne voulait pas intervenir pour l'instant dans l'éducation, la recherche et la culture. Pour l'instant, c'est tout à fait temporaire. On attendra la toute prochaine négociation. Mais il faut bien voir que, à partir du moment où un groupe d'États ou un État comme l'Union européenne a des demandes qui sont extrêmement élevées, des demandes de libéralisation vis-à-vis des autres extrêmement élevées, ça veut dire qu'elle-même est prête à libéraliser dans tous les domaines dans lesquels elle demande au moins.
Et la prochaine étape, finalement, la suite du déroulement, ça va continuer ces négociations?
Oui, alors il y a un certain nombre de dates limites qui sont aussi bien dans les services. Par exemple, la toute dernière date limite dans les services, c'est 31 octobre 2006, mais il y a aussi une date le 31 juillet, c'est la liste des offres révisées le 31 juillet. Mais 31 octobre, il faut que ce soit plié. Vous voyez, en fait, la vraie date qu'il y a à l'OMC actuellement, c'est 2007. Il faut que tout soit plié avant 2007. C'est pas une date OMC, c'est une date américaine. Parce que le président des États-Unis a le droit de signer des accords de libre-échange jusqu'en 2007. Après, il ne peut plus. C'est une procédure américaine, le fast track, comme on appelle ça. Et donc, tout le monde sait que les États-Unis ne peuvent pas négocier au-delà de 2007. Donc, tout le monde avance, enfin tout le monde, je veux dire les négociateurs, avancent très vite dans les domaines qui les intéressent, le service, l'accès au marché non agricole. Et puis, pour l'agriculture, ils ont fait quelques petites concessions. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'accélération et d'agitation assez considérable actuellement à l'OMC. Je dis considérable, même si c'est pas du tout spectaculaire et si aucun média n'en parle.
Et oui, donc c'était des sous et des hommes en compagnie de Frédéric Vial, donc qui est coordinateur du groupe de travail OMC-AGCS. Bien, si vous voulez avoir pas mal de renseignements sur ce qui se trame à l'OMC, sur ce qui s'est tramé à l'OMC au moment de Hong Kong, bah, vous pouvez aller sur le site d'ATTAC qui est www.attac.org. Autrement, vous pouvez réécouter Frédéric Vial sur le site de Dessous. Et cette fois, c'est www.dessousetdeshommes avec un tiret entre chaque mot. .org. Voilà, la semaine prochaine, invité mystère, ça devient un gimmick dans l'émission. Mais j'espère que vous serez derrière le poste. À bientôt!